journal des sciences.
Et le premier sujet du journal des sciences de cette semaine, c'est un sujet sur ces enzymes qui sont capables de dégrader le plastique. Cette semaine, une équipe internationale a annoncé avoir réussi à améliorer de 20% les capacités de dégradation de l'une de ces enzymes découvertes en 2016.
Et ils ont réussi à faire cela par accident, c'est ce qu'ils expliquent ces scientifiques américains et britanniques dans un article publié en début de semaine dans la revue PNAS. Leur objectif était uniquement d'étudier, de comprendre mieux le fonctionnement de cette enzyme qui a été baptisée PETIS, et qui est issu de la bactérie Ideonella sakaiensis, et dont une équipe japonaise avait découvert en 2016 les capacités à manger, c'est-à-dire à dégrader l'un des plastiques les plus répandus, à savoir le polyéthylène téréphthalate, le PET. Et ce faisant, ils ont découvert par hasard qu'ils pouvaient considérablement augmenter cette capacité à dégrader le plastique dans cette enzyme. C'est ce que m'expliquait le français Kamel El-Omari, il est biologiste au Diamond Life Source au Royaume-Uni, et c'est l'un des co-auteurs de cet article.
Le but initial, c'était de savoir à quoi ressemblait la protéine, l'enzyme en fait, et avoir un détail au niveau des atomes de cette protéine. Tout simplement parce que la structure d'une enzyme est reliée à sa fonction. Donc si on sait à quoi elle ressemble, on sait ce qu'elle fait et on sait comment elle le fait. Et une fois que nous avons tous les détails des atomes présents dans cette structure, en fait, l'équipe de Portsmouth a utilisé ces détails et la localisation des acides aminés qui forment la protéine et a décidé de faire des mutations, de les changer pour vraiment confirmer qu'ils étaient impliqués dans l'interaction avec le plastique, avec le PET. Et en faisant cela, normalement, on s'attend d'habitude à ce que les performances de l'enzyme diminuent. Mais dans ce cas-là, c'était le contraire pour une des mutations où on a vu une performance augmentée de 20%. En fait, les acides aminés qui ont été mutés sont ceux qui sont positionnés dans ce qu'on appelle le site actif. Donc, en fait, c'est la partie de l'enzyme qui va se lier au PET, donc au plastique. Donc, on savait exactement lesquels mutaient. Et ce que ça montre, c'est qu'en fait, le site actif, donc le site de liaison au plastique, n'est pas du tout optimisé. Et ce qui est quand même assez rare, parce qu'en général, la nature fait très bien les choses. Mais là, on a vu que rien que pendant les études préliminaires de cette enzyme, on peut augmenter son affinité et même changer sa spécificité. C'est quelque chose de très prometteur, parce qu'il suffit qu'on passe beaucoup plus de temps maintenant à muter d'autres acides aminés et voir en fait ce qui se passe au niveau de l'activité de l'enzyme. Mais c'est vraiment ce qui nous excite tous dans notre grand groupe de recherche.
Voilà, une publication qui a évidemment suscité l'enthousiasme de la communauté scientifique compte tenu des enjeux en matière d'application et d'environnement. Mais hier, Zoé, jeudi donc, la firme française Carbios annonce qu'elle fait bien mieux que cela.
Et oui, cette société de chimie verte française assure que sa technologie à elle de dégradation des plastiques, basée elle aussi sur des enzymes, est bien plus avancée que celle évoquée dans cet article et qu'elle est même prête à les lancer industriellement pour recycler des tonnes de plastique et ce, dès 2021. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler avant, ou en tout cas pas avec la même publicité? Et bien parce que les découvertes de cette firme française font l'objet d'un brevet et que donc elles ne peuvent pas encore faire l'objet de publications scientifiques, en tout cas pas pour le moment, c'est prévu dans les mois qui viennent. Alain Marty, c'est le directeur scientifique de Carbios, vous l'aviez reçu Nicolas, dans une excellente émission consacrée au plastique, il explique que les travaux de Carbios sont très très avancés.
Nous on travaille sur une enzyme différente de l'enzyme qui vient de faire le buzz. Aujourd'hui, je ne peux évidemment pas vous dire, hein, pour des raisons de propriété intellectuelle, sur quelle enzyme nous on travaille. On travaille sur une enzyme qui est une lointaine cousine de l'enzyme du micro-organisme qui s'appelle Ideonella, mais qui est une enzyme beaucoup, beaucoup plus performante que l'enzyme qui vient d'être décrite dans cet article. On a entrepris un travail d'amélioration de cette enzyme grâce à une collaboration avec un labo renommé à l'INSA de Toulouse. Et nous avons amélioré à la fois la résistance de cette enzyme, en particulier à la chaleur, ce qu'on appelle la thermostabilité. Et surtout, nous avons amélioré l'activité de cette enzyme vis-à-vis de la dégradation du plastique. L'enzyme que l'on a fait évoluer, c'est un espèce de petit ciseau, un ciseau moléculaire qui va prendre une chaîne de plastique et puis commencer à libérer un à un les monomères qui composent ce plastique. On a fait évoluer les performances de cette enzyme et aujourd'hui les performances c'est de dégrader 97% d'une bouteille plastique en 24 heures.
En bref, un nouveau patron pour le commissariat à l'énergie atomique, Zoé.
Il s'appelle François Jacques, il succède à Daniel Ververde, PDG de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER depuis septembre 2013. François Jacques a notamment été auparavant PDG de Météo France, conseiller au cabinet du Premier ministre François Fillon et DG de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA.
Et également un nouveau patron à la tête de la NASA.
Et oui, la nomination de Jim Bridenstine a été confirmée de justesse la nuit dernière par le Sénat américain. 50 sénateurs républicains pour, 49 parlementaires démocrates contre. Cet homme avait été choisi, c'est un ancien pilote de la Navy, par Donald Trump il y a 7 mois et demi, mais sa personnalité est très controversée puisqu'il nie notamment que les humains ont contribué au changement climatique et qu'il avait critiqué en 2013 le budget que consacre Barack Obama au changement climatique.
Deuxième sujet cette semaine, une météorite qui est tombée au Soudan en 2008 contenait des diamants, mais ça n'est pas tant cela qui est intéressant, c'est que cette météorite serait en fait une ancienne planète disparue de notre système solaire.
Oui, en fait, elle proviendrait d'une planète disparue importante, baptisée 2008 TC3. Elle intriguait déjà les chercheurs parce qu'elle contenait des minuscules diamants. Alors, au-delà du côté clinquant, ces diamants, ils étaient tous orientés de manière très coordonnée. Or, on sait que pour que ce type de diamant se forme à l'intérieur d'un corps céleste, il faut une pression que l'on trouve dans des protoplanètes d'au moins un millier de mètres de diamètre. Mais les chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui publient cet article dans Nature Communication cette semaine, ont observé que ces fragments de diamants contiennent en leur sein de nombreuses petites inclusions de chromite, de phosphate, de sulfure, fer, nickel. Et c'est la première fois qu'on trouve de telles inclusions dans des diamants d'origine extraterrestre. Et ces inclusions nous révèlent que la planète dont est issue cette météorite était d'une toute autre ampleur. C'est ce que m'expliquait l'une des co-auteurs de cet article, la Suisse Cécile Hébert.
On parle de petites particules qui ont entre quelques nanomètres et 10 nanomètres de diamètre, qui sont très intrigantes. Quand on les regarde, on voit qu'elles ont des facettes presque comme un diamant qui a été taillé. Il y a quand même les deux éléments chimiques, le fer et le soufre, qui sont séparés. Puis quand on regarde la composition, on s'aperçoit que ça correspond toujours à la même composition moyenne. C'est totalement compatible avec l'idée que la phase a été formée à des pressions dans lesquelles elle est stable, qu'ensuite la météorite a quitté l'environnement où elle était, la pression a diminué et elle se décompose. Et quand on regarde un petit peu ce qui existe comme phase entre le fer et le soufre, il y en a une qui existe effectivement à extrêmement haute pression, au-delà de 20 gigapascales, donc des pressions qui sont encore plus hautes que celles dont on a besoin pour fabriquer le diamant. Donc, notre interprétation, c'est vraiment de dire, mais le plus probable, c'est que c'est la trace de la structure qu'elles ont eue, que cette structure indique qu'elle a été fabriquée à des pressions au-delà de 20 gigapascales, et ça, on ne peut plus l'expliquer que par le fait qu'elles étaient dans un corps céleste qui devait avoir une taille entre Mars et Mercure. Les modèles de formation du système solaire prédisent qu'il y a eu des planètes dans les premiers temps du système solaire et qui ont été détruites par la suite. Là, on a un objet très très probablement vient d'une de ces anciennes planètes.
Et si vous voulez en savoir plus sur les origines de notre système solaire et sur tous ces planétoïdes qui ont disparu, eh bien, allez donc réécouter l'émission que nous avions consacrée à ces origines du système solaire et dont on va vous mettre le lien tout de suite sur notre fil Twitter. En bref, Zoé, le Français Jérôme Hamon devient le premier homme à recevoir une deuxième greffe du visage.
Atteint de neurofibromatose, une maladie génétique qui déforme irrémédiablement les traits, Jérôme Hamon avait bénéficié d'une première greffe du visage en 2010. Greffe qui a commencé à 2017 à montrer des signes de rejet graves et qui nécessitaient donc une deuxième greffe totale. Cette deuxième opération complexe a été réalisée à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Elle a eu lieu en janvier et elle est aujourd'hui considérée comme un succès.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, j'ai découvert une navette spatiale dans mon jardin.
Mais oui, dans votre jardin ou presque sur votre plage, on avait deux tenanciers de la ferme de Kémenes. C'est une ferme bio autonome en Bretagne, sur l'archipel de Molène. Ils se baladent en début de semaine et ils découvrent un étrange objet, un disque de diamètre de 2,5 mètres, en gros, recouvert d'algues. Alors qu'est-ce que c'est, une espèce de soucoupe volante? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'ils ont découvert, frappé sur ce bout de cylindre, eh bien le logo de la société spatiale américaine. américaine SpaceX. C'est donc forcément un morceau de lanceur ou de véhicule spatial qui a certainement dérivé pendant des mois après être tombé dans l'océan à l'issue d'un lancement. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce couple a interpellé sur Twitter le fameux Elon Musk, dont on sait qu'il communique beaucoup. Il n'a pas pris le soin de répondre, c'est dommage. Mais évidemment, la photo s'est répandue sur la toile et Internet s'est passionné pour l'objet. Et la plupart des contributeurs, astrophiles, amoureux de l'espace, optent pour la coiffe d'une capsule de Dragon, le vaisseau utilisé par SpaceX pour ravitailler la station spatiale internationale. On voit sur des vidéos cette coiffe qui a pour fonction de protéger le vaisseau durant la phase d'ascension de la fusée Falcon 9 et qui ensuite est lâchée à une centaine de kilomètres d'altitude. Peut-être qu'un jour Elon Musk aura la gentillesse de nous répondre.
Et moi qui pensais que c'était une soucoupe extraterrestre, je suis déçu.
Mais oui, vous êtes toujours déçu, je sais.
La déception, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci à vous.